Voilà, et donc un petit moment de partage aussi, mais je vais partager juste tranquillement, hein, je ne vais pas trop gesticuler. Peut-être, hein, on ne sait jamais. Dans ce que j'ai décidé, c'est d'être tranquille et de ne pas gesticuler, mais on ne sait jamais. Parce que ce que je décide et ce qui arrive, c'est toujours différent. Et donc c'est vrai que gloire à Dieu, et même je pense sur Thumri, c'est impossible qu'il n'y ait pas une émergence de quelque chose. Et donc, il y a, à Thumri, il y a plusieurs entités, je dirais, mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est que les gens puissent se réunir, je pense, pour Jésus. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont pas encore chrétiens, entre guillemets, mais qui sont tout prêts. Et ils ont tellement besoin d'être entourés. On peut pas faire une soirée comme ça, sans un travail de suite. Et donc là, c'est le défi devant l'équipe du château de comment est-ce qu'ils vont aller de l'avant. Et donc, on peut prier pour Thumri qui est des choses. Bon, on a Claude et Lydie qui sont là. Ils sont là ce matin. Donc. Et donc, ce que je veux faire ce matin, c'est poursuivre un peu une discussion qu'on a eue ce matin et poursuivre un peu le mail que Jean-Luc nous a envoyé parlant du réveil de Pays de Galles et ce qui se passe au Pays de Galles en ce moment. Il y a des milliers de personnes qui sont touchées par l'Évangile. Il y a les gens qui sont tellement remplis du Saint-Esprit, qui sont guéris, pas juste physiquement, mais émotionnellement, et beaucoup de choses se passent. Et je sais que c'est Colette qui m'a dit ce matin que quand il y avait le premier réveil au Pays de Galles, les mineurs sont venus dans le nord de la France, et leur feu à toucher les mineurs dans cette région. Et c'était quand même peut-être le début d'un vrai réveil en France. Peut-être ce réveil qui se fait attendre, qui se fait tellement persécuter. Et malheureusement, en 1909, 10, comme ça, ça a été étouffé par la Première Guerre mondiale en 1914, qui a éclaté. Tous les jeunes hommes, hein, ils étaient embrigadés dans l'armée, et c'était la tragédie. Et on dit souvent, même les sociologues, que le réveil, l'espérance, l'héroïque est mort en Europe à ce moment-là. Même les athées, ils font les études, ils disent voilà, c'était la fin de quelque chose. Et ça a préparé aussi la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était un peu, c'est comme cette morosité, cette écharpe de plomb est venue, cette résistance à un réveil, quoi. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent que si ça recommence au Pays de Galles, ça peut recommencer aussi ici. Alors j'étais très encouragé par ce mail de Jean-Luc. Et après j'envoie une petite vidéo. Bon, c'est très difficile parce que c'est en anglais, mais même moi j'ai de la peine à comprendre l'anglais parce qu'il parle avec l'accent gallois et l'accent écossais. Mais tu vois les gens qui pleurent. Ce qui m'avait touché, il y a une jeune fille qui était dans la drogue, qui avait tout cassé avec sa famille. Et je vois qu'elle est touchée, elle revient. Et voilà, d'une manière surnaturelle. Et je pense que Dieu veut vraiment, d'une manière surnaturelle, juste toucher des jeunes. Mais quand on parle de réveil, en ce moment, je pense beaucoup à ça. Et avec notre vision 50, hein, il faut que le Saint-Esprit soit avec nous pour que ça se réalise. Mais quand je prie beaucoup pour ça, et Dieu, il me parle en ce moment, il alimente ma prière par des passages de la vie d'Élisée. Hein, j'étudie beaucoup Élisée en ce moment. Et donc, je vais pas faire ça comme une étude biblique maintenant. Hein, je vais faire ça comme moi, je prends le passage et comment je prie de ce passage. Et donc, il faut poursuivre, il faut voir deux rois. Hein, le chapitre de l'Ancien Testament, deux rois. Et on va voir deux chapitres, 3 et 4. Hein, 3 et 4. Deux rois, 3 et 4. Et donc Élisée, il vient de prendre la place d'Élisée. Et donc là, il se trouve embrigadé un peu dans une sorte d'initiative de guerre. Et il y a deux rois. Il y a le roi d'Israël et il y a le roi de Juda. Et donc il y a Joram, qui est le fils d'Akab. Et donc Akab n'était pas un très bon roi avec sa femme Jézabel. Et malheureusement, il n'a pas passé un bon bâton à son fils Joram, qui était un mauvais roi aussi. Mais Josaphat, c'était un très bon roi. Hein, il était aimé de l'Éternel. Josaphat. Et donc, Ce qui se passe, c'est que les deux rois, ils font une alliance et ils partent en guerre. Cocorico, on va gagner contre Moab. Ils partent en guerre, ils vont gagner. Vision 50. on va démolir l'ennemi. Ils partent en guerre. Mais après, nous lisons en verset 9 de 2 Rois chapitre 3, ils ont marché pendant 7 jours par une route détournée, mais il n'y eut plus d'eau pour le camp ni pour les bêtes qui les suivaient. Et donc j'ai dit, oh mince, c'est bien de partir, c'est facile de partir en guerre, mais il faut maintenir la marche. Et tout d'un coup, ils se trouvent dans le désert, il n'y a plus d'eau. Donc il n'y a plus quelque chose pour alimenter, là c'est panne sèche. Et donc ils ne peuvent pas aller de l'avant. Et je dirais souvent, dans mon expérience, pour moi c'est très facile de commencer un projet. Je suis tout enthousiaste, voilà, on part. Et après, quelqu'un a emmené de l'eau. C'est pour, quand ça doit durer, il faut que ça soit alimenté. Et ça, il y avait un problème d'alimentation ici, parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et je pense pour nous en tant qu'Église, et même en tant qu'individu, on peut toujours faire une bonne résolution en janvier, voilà, je vais faire ça. Mais quand même, notre résolution, notre projet, doit être alimenté par l'eau du Saint-Esprit. Et donc après, les rois sont là, et après, le roi d'Israël, il fait une prière. Et je dirais, oh, moi, je ne veux pas faire cette prière. Mais il fait une prière. Il dit, Ella, Ella. Il commence à dire, bon, je pense qu'il a raison de dire Ella, parce qu'il n'y a plus d'eau, les bêtes vont mourir et tous ces soldats vont mourir. Et donc, il dit, Ella. Est-ce que c'est la prière de l'Église en France en ce moment? Voilà, Ella, voilà, on va mourir. Reviens, Jésus, Ella. Ma vie, Ella. Et donc, j'ai dit, on peut prier ça, mais Josaphat dit, parce que Josaphat, il était plus juste que Joram, et il a une autre question, il dit pas juste, Ella, lui il dit une autre chose. Tu sais, Dieu veut plus que votre Ella, d'accord? Vous pouvez dire Ella pour un moment, mais il faut autre chose, parce que Ella n'a rien changé, d'accord? Si vous avez une vie, Ella, 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 oh, ça change rien. Moi, je suis désolé, hein, je suis un peu dur, mais il faut aller plus loin et il faut être comme Josaphat. Et lui, il dit, quand même, il ose dire, « N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Et après, quelqu'un dit, « Ah, voilà, il y a Élisée qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » La parole de l'Éternel est avec lui. Et ce n'est pas nos élas qui changent la situation. C'est la parole de Dieu qui va changer notre situation. Donc là, à un moment donné, on doit faire l'effort de dire, mais qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit par sa parole? Qu'est-ce que c'est? Pas juste une parole, voilà, j'ai lu 10 pages de la Bible, mais qu'est-ce que c'est la parole prophétique pour moi? Qu'est-ce que c'est la parole réma? Qu'est-ce que c'est cette parole qui me touche, qui me change? Et tout commence là, une parole, quelque chose que Dieu me dit. Et ça c'est souvent même pour nous en tant qu'Église. Qu'est-ce que c'est la parole que Dieu nous dit? Qu'est-ce que c'est la parole? Qu'est-ce que Dieu dit? Et cette parole est toujours finalement une parole incarnée. La parole de Dieu est toujours Jésus, mais c'est une expression de Jésus. C'est pas juste l'encre, c'est pas juste le papier, c'est Jésus. Mais Jésus qui vit, qui s'exprime, qui est vivant au milieu de nous. Et donc Élisée, il a dit, d'accord, je vais vous donner une parole. Mais il y a une chose intéressante, il a besoin d'un contexte approprié. Et il regarde le roi de Joram, et il dit, Élisée dit, verset 14 de chapitre 3, « L'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Si je ne considérais pas la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. » Wow. Tu vois, il y a deux rois. Et il dit à Joram, tu sais, je ne te fais aucune attention. Je ne regarde même pas à toi parce que tu n'es pas saint. Parce que c'est bidon ta vie. C'est une vie d'hypocrisie. tu es le roi, tu es roi d'Israël, mais tu fais un tas de péchés. Donc, moi, tu ne peux pas avoir le contexte. Il n'y a aucun contexte dans ta vie pour une parole prophétique, pour construire à long terme. Bon, je ne parle pas des petits péchés, hein. Il ne faut pas être condamné, oh, je ne suis pas parfait, il ne faut pas dire, non, je vise personne. Mais je veux dire que, tu sais, quand tu as des grands monuments de christianisme, tout ça, mais que derrière, c'est des ossements. C'est affreux. Et donc, Dieu ne peut pas travailler. Il dit même, je ne regarde même pas. Mais ce qui est positif, parce que Josaphat, et là, il dit, mais je considère la personne de Josaphat. Waouh. Que Dieu considère la parole prophétique, cherche une personne digne de considération. Et là, ça m'encourage énormément, parce que moi, je vois toujours, je suis de nature de voir la verre moitié pleine plutôt que moitié vide, tu vois. Et donc, moi, je me positionne toujours comme étant Josaphat plutôt que Yoram. Et de dire, voilà, tu me considères, Seigneur. Tu me considères, tu peux me parler. Tu peux me parler. Et après, Élisée, il dit trois choses. Il dit trois choses. Et ça, je veux partager ces trois choses comme un encouragement pour vous. Bon, c'est ma prière pour le réveil, c'est ma prière pour Vision 50, c'est la prière pour le réveil dans ma propre vie. Et ça passe par trois choses. Donc, c'est dans chapitre 3 et 4, mais je vous le dis tout de suite comme ça. Musique, fosse et huile. Musique, fosse, huile. Trois choses. Qu'est-ce que ça veut dire, fosse? Oui, c'est dans la fosse, une fosse. C'est pas une fosse septique, mais une fosse contre. Et donc, musique, fosse. C'est dans le texte, on peut dire un fossé, mais c'est une fosse, voilà. Une fosse, un fossé, c'est long. Hein. Et musique, fosse, huile. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Bon, je reviendrai au texte après. Mais ça parle d'intimité, d'incarnation et d'innovation. Donc, trois choses. Intimité, incarnation et innovation. D'accord. Le troisième, je vais expliquer. Innover les solutions de rédemption. Et donc, regardons un peu le texte. Verset 15. Maintenant, emmenez-moi un musicien. Moi, j'aime bien ça. Emmenez-moi un musicien. Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et donc Dieu, d'un côté, pour que la parole émerge et pour que la parole soit là, il fallait un contexte d'intimité, un contexte d'adoration, la musique. Et ça, c'est lié aussi, j'ai pas le temps de faire ça, mais si vous lisez en Chronique, quand David avait établi le temple avec Asaph et tous les autres chantres, ils avaient les musiciens, et chaque fois qu'il y a la musique, il y a aussi la prophétie. C'était un contexte d'accueillir la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire, bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir la musique et tout d'un coup, quelqu'un avec une voix bizarre dit « Oh, le Seigneur dit… » que tout, c'est un peu ritualisé comme ça. Je ne suis pas contre des prophéties qui sortent comme ça. C'est très bien même, je ne suis pas tout contre ça. Mais on n'a pas besoin de faire un show, c'est tout naturel, les gens utilisent leur voix normale et… on est naturellement surnaturel. Et c'est pas la magie, c'est pas mystique et tout ça. Mais je pense que c'est plus que juste donner une prophétie. Quand il y a la musique, quand il y a la louange, quand il y a l'intimité, nous recevons une parole. Même dans le silence, même quand il y a quelque chose là, on sent que le Saint-Esprit peut venir, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et tout d'un coup, la parole était vivante en lui. Et il faut toujours commencer par l'intimité. Même dans nos propres vies chrétiennes individuelles, l'intimité est clé. Il faut avoir un chant dans notre cœur. Il faut avoir une place de dire, c'est toi Jésus que j'aime. C'est comme Odette nous dit, mon premier bonjour, c'est pour le Seigneur. Tu vois, et ça, cette intimité de vie, et ça mène la barque. C'est pas l'activité, c'est pas Vision 50, qui doit mener là-bas. Voilà, on va vous faire travailler, on va se lever tôt et faire tout ça. Mais c'est l'intimité avec Dieu. Je t'aime, Seigneur. Essaye d'avoir un peu de musique dans notre vie. Bon, on a de la chance d'avoir la musique ici. Et je pense que le ministère d'adoration, c'est clé, essentiel. C'est pas juste préparer la prêche. C'est essentiel. Essentiel, la musique. Et pas juste dans des moments quand nous sommes assemblés. Mais même dans ma propre petite vie, mon petit temple a besoin de chanter. Mon petit temple a besoin de prière. Mon petit temple a besoin de dire Jésus, je t'aime. Et d'avoir cette intimité. Et donc ça commence avec la musique. La musique, la musique. Là, le réveil au Pays de Galles. Bon, j'ai un collègue, une collègue, Gail Dixon. Et elle a lancé des célébrations. Célébrations pour les nations, elle appelle ça. Où les gens viennent dans un grand chapiteau, peut-être 500 personnes, 600 personnes, et une semaine où ils font que adorer Dieu. Avec les musiciens de partout dans le monde, ils essayent d'avoir des Africains, ils ont toujours la peine à trouver des Français qui sont d'accord de venir, mais ils disent, bon, ça viendra. Mais elle a fait ça une année, il y a 7 ans je suis allé, et elle a reçu la conviction, je dois faire ça 7 années. Et à la 7e année, ça serait le réveil au Pays de Galles. Je vais déboucher le puits du réveil au Pays de Galles. Et tout le monde, même moi, honnêtement, je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu sais, j'étais pas très... Bon, je ne l'ai pas dit direct comme ça, mais dans mon cœur, j'avais une réticence. Et je suis quand même étonné quand Jean-Luc m'envoie quelque chose qui dit, c'est la 7e année, cette année, que quelque chose a commencé au Pays de Galles. Pas chez elle, c'est ça l'humour de Dieu. C'est pas à Planet Lee, là où elle fait sa célébration, mais c'est à Newport, au Cardiff. Donc c'est dans une autre église que ça s'éclate. Bon, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mais je suis sûr qu'elle doit être pour quelque chose là-dedans. Toute cette musique, toute cette musique qui a arrosé le Pays de Galles pendant 7 années, tous ces musiciens qui ont crié vers le ciel, qui ont ouvert le ciel, qui ont préparé la main de l'Éternel qui est sur le prophète. Et donc voilà, ça c'est la première chose, musique. Et le réveil a besoin de musique. Si on va vivre quelque chose, si on a besoin d'adoration, et vraiment, je dirais, tac de cœur, tu vois, vraiment adoration intime, pas juste chanter. Il n'y a rien de pire que ça. Mais quand ça sort du cœur, quand ça nous prend, là, je suis touché ici. Ça, c'est un des plus grands atouts que j'hérite avec cette église. Souvent, là, je suis sur ma chaise, là, et je pleure. C'est comme si j'ai une petite éponge dans mon cœur, et Dieu, il serre ça, et... Mais pas, je suis pas triste, mais d'être touché par l'intimité, par des chants. Quand on faisait l'autre jour, je t'avais dit l'autre jour, le chant que tu avais chanté, Jésus est ma lumière, il chasse les ténèbres de ma nuit. Il y avait une onction sur ces mots-là. C'est ça que je veux dire pour recevoir une parole prophétique. Je chantais, Jésus, il chasse les ténèbres, les angoisses, les ténèbres de mes nuits. Quelque chose s'est passé au moins. Et je pense que, une église où on est dans ces moments prophétiques d'adoration, ça, on n'a pas besoin de... Dieu travaille. Donc la musique, il faut la musique. Deuxième chose, quand il a la main de l'Éternel, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, verset 16, « Faites dans ce vallon des fosses. Hein? » Et donc c'est drôle, hein? Des fosses. Et donc, juste dans le, pour moi, quand je lis ça, c'est d'un côté, quand on est dans le ciel avec l'adoration, c'est bien. Mais quand il faut creuser la terre, c'est l'autre jour, j'ai dû creuser, voilà, un trou vert pour le gaz, pour faire entrer le gaz. Et donc, moi, je suis pas un ouvrier, moi. C'est la seule part, seul muscle qui travaille chez moi, c'est ma langue. Et non, là, j'ai pris une pelle et comment ça? Après 2 ou 3 trucs, je dis, oh, mais je suis fait. Mais c'était dur de creuser la terre. Et c'est là où je vois l'adoration. Voilà, on est dans le ciel. Mais c'est pas juste la musique. Il faut des fosses. Et de creuser. Et ça, c'est l'incarnation. Ça, c'est vivre dans un village, dans une ville, connaître des gens, connaître la culture, creuser dans la prière, creuser dans le relationnel, creuser, incarner Christ, creuser dans notre propre valent le caractère de Christ en nous, avoir le fruit de l'amour, incarner le fruit de l'amour, être présent dans le supermarché, être présent dans la boulangerie avec Christ en nous, en incarnant la présence de Jésus, pas juste pour 2 minutes, pas juste. Bon, même les Coréens, c'est très bien, ils viennent, paf, c'est l'éclat, mais après ils partent. Et là, on sait que c'est long terme, et d'avoir une présence dans le vallon, et de creuser un contexte pour l'eau. Parce que c'était ça la stratégie pour la bataille. C'était de capter l'eau. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ils allaient mourir, et donc il faut creuser. Et après, il dit, verset 17, « Car ainsi parle l'Éternel, vous ne verrez pas de vent, et vous ne verrez pas de pluie, mais ce vallon se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux, et votre bétail. » Et moi, c'est ma prière, que ce vallon se remplisse d'eau. Même ce, je ne sais pas si c'est un vallon, hein, cette région verte. C'est pas tellement. Bon, tout est plat ici. Hein. Mais bon, que ce nord, que ce l'île sud se remplisse d'eau. Que là où les gens ont creusé dans leur village, que là où ils ont prié, là où les gens ont creusé pendant longtemps, que le vallon se remplisse d'eau. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Et chose incroyable, 18, il dit, mais cela est peu de choses au lieu de l'Éternel. Et c'est facile pour moi de faire ça. Je dis, wow. Quand c'est le temps de Dieu, c'est facile. Je dis, oh, mais Seigneur, c'est tellement dur pour nous de creuser. C'est facile pour toi d'envoyer la pluie. Et moi, je me demande quand même, parce que beaucoup de gens ont déjà beaucoup prié. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de trous déjà préparés. Je pense que là, on n'a qu'à remplir, à dire, Seigneur, on voit la pluie, on voit. Mais même, c'est même pas la pluie, parce qu'il dit, vous n'allez même pas entendre le vent, ni la pluie. Hein? C'est verset 17, car ainsi parle l'Éternel, vous ne verrez pas de vent, et vous ne verrez pas de pluie. Et l'eau est venue d'Édom. Hein? Verset 20, au le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici que l'eau arriva du côté d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Et donc je pense que c'était plutôt une source qui a jailli d'Édom. Et je pense qu'il y a des sources préparées. Jean-Luc me parlait ce matin des martyrs dans cette région. Et je pense que la France a quand même connu des années de prières, des gens qui ont préparé, les gens qui ont travaillé dans le désert. Les gens qui ont creusé des trous. Moi, ça fait depuis 20 ans que je creuse des trous dans cette région, avec des équipes, des gens à Thumry, voilà, vous à Wavrin, dans, là où vous habitez, et même d'autres personnes, peut-être les gens dont on ignore totalement, les gens d'autres pays, même quand il y avait cette année de prière pour la France, il y avait beaucoup de gens dans le nord de la France, les gens d'Afrique du Sud qui sont venus, les gens qui prient, et à mon avis, des trous sont déjà creusés dans cette région. À mon avis, il y a des choses qui sont déjà préparées. Et donc voilà, et après, voilà, je ne vais pas expliquer tout ça, mais ils ont gagné leur bataille aussi. L'ennemi a été vaincu. Mais il y a une troisième chose, et ça c'est l'huile. Hein? Musique, fausse, et huile. Et donc, chapitre 4, et c'est une situation de crise, et il y a une veuve qui a 2 fils qui vont être vendus comme esclaves. Et il y a une parole, verset 1, la fin de verset 1. Le créancier est venu. Le créancier est venu. Donc là, ça, je pense qu'il y a deux niveaux de... Ça peut être interprété à deux niveaux. Premièrement, économiquement. Je pense que le créancier est à la porte en France. C'est économiquement, le créancier est venu, parce qu'on a des dettes, on a le chômage, et ça va mal. Il n'y a pas d'argent, les gens ont des poches vides et partout. Et ça nous touche, même en tant qu'église et tout ça. Tout le monde, il y a le chômage, le créancier est venu. Mais je pense sur le plan spirituel aussi, le créancier est venu, parce que il n'y en a pas beaucoup de capital spirituel. C'est, les gens sont vendus au péché et ils ont besoin de rédemption. Qui va payer le prix? Et le péché augmente. Moi, j'ai vu hier soir, certaines personnes étaient tellement endurcies et tellement de problèmes accumulés, des erreurs, et qui persistent, et même ils se vantent. On est dans un pays où on se vante de notre péché, de dire les choses mauvaises, et après ça devient culturel. Voilà, il y a des choses qui sont établies culturellement, qui sont des situations de péché, mais qui sont établies culturellement comme des normes de société. Et après, ça craint, le créancier est venu. Donc encore une situation difficile. Mais Élisée encore, il a une solution. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Et peut-être ça, c'est une bonne promesse, hein, si Dieu dit, mais qu'est-ce, peut-être vous pouvez faire une réponse. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Et elle répondit, oh non, après il dit une autre chose très intéressante. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et nous dans la... C'est allongé sur la chaise. On dit, mais Seigneur, tu fais tout. Allez, fais ça. Mais après, il nous coince un peu parce qu'il dit, mais indique-moi ce que tu as à la maison. Alors là, qu'est-ce que moi j'ai? Quel talent? Quelle capacité? Qu'est-ce que moi j'ai pour participer à la solution? Qu'est-ce que moi j'ai pour déclencher un miracle? Qu'est-ce que moi j'ai? Le peu que j'ai, qu'est-ce que j'ai? Et la femme, elle est comme nous tous, elle dit, oh mais bon, j'ai rien. J'ai rien. Si je dis, mais qu'est-ce que c'est votre ministère? Quels sont vos talents? Bon, j'ai rien. Je suis nul, j'ai rien. On est programmé pour dire ça, oh, j'ai rien. C'est la première réaction, j'ai rien. Mais après, Dieu, il persiste. Non, tu peux pas dire, t'as rien. On a tous quelque chose. Et finalement, il dit, oh, mais je n'ai rien, mais sauf, il y a un tout petit flacon d'huile. Et vous savez, chacun de nous, nous avons, même si c'est tout petit, nous avons un flacon d'huile chez nous qui peut déclencher le miracle de Dieu. Et ce flacon d'huile, pour moi, c'est l'innovation. C'est notre créativité. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je peux faire pour toucher mes voisins? Qu'est-ce que moi je peux faire si je sais broder, si je fais cuisiner, si je fais sourire, si je sais... Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que... Cette huile n'est pas le grand onction du Saint-Esprit sur le prédicateur apostolique, machin. Ça c'est très peu finalement. Les gens ne sont pas vraiment sauvés par une grande prêche, tout ça. C'est par des petits trucs innovatifs. Et je pense qu'on est dans un temps où les gens, honnêtement, ils ne veulent pas venir dans une grande réunion. Et ils veulent pas forcément écouter. Bon, je suis pas contre, et moi je vais même mettre en place des réunions, parce que je sais faire des réunions. Mais je sais que la vie est beaucoup plus qu'une réunion, et que le réveil est plus qu'une réunion. Et je pense que là, il faut de l'innovation. Et moi, quand je vois les groupes contact, je dis, mais là, chaque maison, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est l'huile? Qui est-ce que je peux inviter à venir? Peut-être faire un petit gâteau, invite quelqu'un, ou commencer à juste prier. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire venir les gens? Qu'est-ce que j'ai dans la maison? Il y a les gens, peut-être, qui sont très sportifs, il y a d'autres qui sont pour la culture, ils aiment écrire les poèmes ou les livres, il y a d'autres, peut-être, qui savent chanter, je ne sais pas, on a tous quelque chose. Il y a d'autres, peut-être, qui peuvent faire une petite entreprise. Comme cette femme, elle a commencé une entreprise qui a créé un contexte social. Parce que le réveil, c'est vrai, il faut une incarnation. Il faut creuser, il faut être réel dans notre région. Mais en même temps, il faut un contexte social. Parce que si on ne rencontre jamais les non-chrétiens, si on n'est pas en contexte social avec eux, ça ne va pas passer. L'huile ne va pas passer. Et donc là, le troisième, cette huile, c'est aussi créer. Bon, on peut dire trois contextes. La musique, c'est le contexte céleste. Ça ouvre le ciel. Le trou, c'est les contextes, le contexte culturel, social. Mais l'huile, c'est le contexte social où il faut créer des relations avec les gens. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour cette dame? Ah, j'ai un flacon d'huile chez moi. Il dit alors, va demander ou dehors. Va demander ou dehors des récipients chez tous tes voisins. Il faut chercher des vases vides. Quel potentiel! Tu sais, les bouteilles ne sont pas pleines en France. Ça, c'est une bonne chose chez mes voisins. Ils sont tous des bouteilles vides d'un côté. Hein. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il y a un énorme potentiel de partager, de commencer à verser un petit peu de notre vie chez quelqu'un d'autre. Et va demander. Et n'en demande pas un petit nombre. C'est pour ça que je dis au moins vision 50. Il ne faut pas demander un petit nombre. Deux, trois, même chacun de nous, on peut dire, mais Seigneur, cinq voisins, voilà. Deux, un. Mais ne demande pas, on ne sait pas ce que Dieu peut faire. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte, tu vas endoctriner tous ces pauvres. Tu les arroses. Bon, il ne faut pas prendre ça littéralement, hein. C'est mon interprétation métaphorique. Elle ferme la porte, elle avance les récipients, elle verse. Peut-être c'est ça que Dieu nous demande, juste de verser le peu qu'on a, de le verser par la foi. Verser ton talent par la foi. Verser ton ministère par la foi. Et lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Avance-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Et là, il y a une grande leçon là. Quand il n'y a plus de récipient, il n'y a plus de réveil. Quand il n'y a plus de récipient, il n'y a plus de multiplication. Et donc, quand on arrête à créer des contextes sociaux par la foi, quand on arrête à verser, il n'y a plus rien. Quand il n'y a pas de récipient, l'huile s'arrêta. Et donc, j'ai dit, mais Seigneur, aide-nous à avoir continuellement des récipients, des contextes sociaux autour de nous, où on peut verser le peu d'huile qu'on a d'une manière peut-être qui n'est pas du tout liée à une église locale le dimanche matin. Je suis pour ça, mais peut-être c'est dans ma maison, peut-être c'est dans le contexte de travail, un contexte d'entreprise, contexte d'une association, d'un club. Qui sait? Mais c'est ça l'innovation de l'huile. Où est-ce que je peux avoir cette innovation et trouver mes bouteilles vides? Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Et donc là, à la fin, c'est la rédemption. C'est la vie. C'est le créancier, il est payé. Et il faut une innovation. Il faut des innovations pour des solutions de rédemption. Et va vendre, même au niveau auto-entrepreneur, créer un business pour Jésus. Tout est possible. Mais qu'est-ce que c'est l'huile que Dieu a en nous? Qu'est-ce que c'est l'huile qu'on a dans notre maison où on peut inviter des voisins et créer ce contexte social? Et donc voilà, juste trois prières. Je prie, Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux, bon, pas je veux, mais je prie musique, plus de musique. Plus de fausses et plus d'huile, Seigneur. Et même ces trois choses ensemble, waouh, les trois choses ensemble, c'est le réveil qui est en route. Amen.